Vivre FM, l'invité de la rédaction, podcast.
Bonjour. Bonjour Sophie Cluzel.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, et je sais que vous y tenez. Sophie Cluzel, c'est la rentrée scolaire lundi. Est-ce que tout est prêt pour accueillir les enfants handicapés à l'école ?
Alors, tout est prêt, si vous voulez, pour bien accueillir les enfants handicapés. Je tiens à rassurer les familles. Nous avons travaillé vraiment pendant tout l'été avec mon collègue Jean-Michel Blanquer et le ministre de l'Éducation nationale pour pouvoir assurer l'accompagnement des élèves handicapés. Mais il n'y a pas que l'accompagnement, vous avez raison. Il y a aussi beaucoup d'élèves qui font leur rentrée sans accompagnant. Les dispositifs Ulysse d'inclusion et puis bien sûr plein d'autres en scolarisation individuelle qui progressent dans leur cursus scolaire.
Alors, l'inquiétude, elle est beaucoup autour des accompagnants. Hein, et vous le savez, c'est d'ailleurs ce qui a fait votre expertise en tant que militante associative, puisque vous êtes issue de la société civile. Alors, on va prendre plusieurs cas. À Paris, par exemple, en juin, l'inspection académique signalait devant les associations, pour le moment, il nous manque un accompagnant sur deux. On n'arrive pas à recruter, les salaires sont trop bas. Qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors, les salaires, ils sont toujours pareils. Hein. On hérite d'une rentrée scolaire où il y a encore beaucoup de contrats aidés. Plus de 50 000 accompagnants sont en contrat aidé, 30 000 sont en contrat AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap, qui sont plus pérennes, plus professionnelles, plus stables auprès des élèves. Et c'est pour ça que dès que la rentrée scolaire sera finie, on attaque immédiatement, avec mon collègue Jean-Michel Blanquer, la rénovation de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va se remettre autour de la table. Beaucoup a été écrit. On a tous, beaucoup, dans la vie associative passée, participé à des réunions, notamment le fameux chantier Comites, pour pouvoir travailler sur le statut. Mais il est urgent de retravailler sur un statut pérenne, sur un vrai métier pour les accompagnants.
Mais pour prendre l'exemple parisien, là, il y a un certain nombre de gens qui... Alors, soit les postes sont pas pourvus, soit il y en a qui ont dit oui au mois de juillet, mais peut-être qu'en août, ils ont trouvé un travail ailleurs, et que lundi, et ça fait partie des angoisses des parents, de lundi, est-ce que l'AVS qui est prévue sera vraiment là à l'école ?
On ne peut pas garantir que toutes les AVS seront là. Ça serait vraiment mentir aux parents, parce que vous avez tout à fait raison, il faut pointer du doigt la problématique du recrutement. En revanche, tous les élèves handicapés vont faire leur rentrée et l'accompagnement peut-être viendra au fil de la semaine, au fil des 15 jours. Je sais qu'on me traite d'optimiste quand je dis qu'une semaine, mais on fait vraiment tout ce qu'il faut. Les services de l'emploi ont été sollicités, les académies sont vraiment, vraiment au taquet pour pouvoir réussir cette rentrée scolaire.
Qu'est-ce qu'on dit à des parents qui, lundi, rencontrent une difficulté ?
On leur dit ne perdez pas patience, de toute façon votre enfant sera à l'école, les enseignants sont motivés aussi, ce sont des élèves avant d'être des élèves handicapés, ils ont leur place à l'école, dans cette école inclusive qui commence vraiment à progresser dans cette notion d'inclusion.
Alors, deuxième cas de figure, on les a entendus dans le flash du handicap tout à l'heure, des parents d'enfants autistes qui disent les accompagnants de l'éducation nationale ne sont pas formés à l'autisme, c'est très particulier, et donc nous, on a formé nous-mêmes les accompagnants, et tant pis, on y va de notre poche.
Non, il y a très très peu de parents qui y vont de leur poche. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment épisodique, et de toute façon, dans beaucoup d'académies, il y a des associations labellisées par l'Éducation nationale, oui, qui mettent à disposition du personnel, mais dans un cadre totalement conventionné. De toute façon, ce n'est pas que pour l'autisme qu'il faut améliorer la formation. C'est pour tous les autres déficiences, pour tous les autres handicaps, et ça fait vraiment partie aussi de la feuille de route, améliorer la formation des accompagnants.
Alors, il y a un diplôme aujourd'hui, qui est un diplôme de niveau 5, on ne va pas rentrer dans la technique, mais c'est un niveau CAP. Donc c'est plutôt bas comme niveau. Est-ce que pour accompagner un étudiant qui serait en fac de chimie, c'est pertinent d'avoir quelqu'un qui l'accompagne qui finalement comprend rien du tout à ce qui se passe ?
Non, c'est absolument pas ambitieux. Une qualification de niveau 5 infrabac pour pouvoir faire monter en qualification les étudiants, les élèves handicapés, ce n'est pas ambitieux. Il va falloir certainement des formations complémentaires. C'est une première marche à l'édifice d'une professionnalisation. C'est une entrée dans un diplôme. Diplôme d'éducation inclusive, d'abord il y en a très très peu, hein. Ils ne sont pas encore sortis puisque c'est une promo, un début de promotion.
Oui, c'est tout à fait le début.
Mais ce n'est pas satisfaisant en termes de qualité hein, de diplôme. Et notre problématique majeure en France, c'est la qualification des élèves et des étudiants handicapés. Donc on ne peut pas faire monter en qualification si l'accompagnant lui-même n'est pas assez qualifié.
Autre cas de figure, et je sais que vous aimez bien qu'on prenne des cas individuels, vous l'avez dit devant la commission des affaires sociales, vous avez dit ma ligne directrice, ça sera de partir des besoins individuels, et vous le savez, chaque cas appelle une réponse particulière, on a beaucoup souffert des réponses en tuyau où il fallait absolument rentrer dans une case. Il y a un certain nombre d'enfants pour lesquels la maison départementale du handicap n'a pas attribué d'accompagnement. Je pense en particulier à des enfants qui ont des handicaps peu visibles, invisibles. On parle des troubles d'apprentissage, on parle d'un certain nombre de handicaps pour lesquels c'est difficile d'évaluer, c'est difficile de mesurer le besoin d'accompagnement. Qu'est-ce que vous dites à ces parents qui se disent « mais mon enfant, il galère à l'école énormément, mais comme on a du mal à évaluer, pas de solution ».
Il y a quand même des solutions internes à l'école. Hein. Il y a ces fameux plans d'accompagnement personnalisé, hein, les PAP, que beaucoup d'enfants avec des troubles 10 ou des troubles d'apprentissage durables connaissent. Donc il y a des outils pédagogiques à mettre en place. Et c'est là-dessus que l'on va travailler avec les enseignants, avec Jean-Michel Blanquer. C'est comment faire monter aussi en qualification les enseignants sur ces adaptations pédagogiques.
Mais on a l'impression qu'il y a une espèce de marge très importante entre ceux qui ont des réponses à l'école et ceux qui ont des réponses de la maison départementale du handicap. Et que finalement, celui qui n'a que des réponses à l'école, il n'est pas ou peu aidé, et que les vraies solutions, elles sont à la MDPH, et que pour certains, cette porte-là, elle est fermée.
Je pense que non. Je pense qu'il n'y a vraiment pas la peine d'emboliser aussi les maisons départementales du handicap. Ce n'est pas la peine d'aller faire le parcours du combattant encore à la maison du handicap, parce que c'est parfois aussi un parcours du combattant. Je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus à cette école inclusive avec des compensations qui peuvent être mises aussi en place, hein, naturellement d'abord par les enfants, les aider. Mais vous avez raison, il y a toute une frange d'enfants où on parle d'handicap invisible, où c'est compliqué pour l'enseignant de comprendre comment fonctionne cet enfant. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille.
Et c'est d'autant plus facile quand les familles n'ont pas la ressource pour, vous l'avez dit, parcours du combattant, ce sont des mots qu'on a beaucoup évoqués, les difficultés administratives. Comment vous allez simplifier, par exemple, pour les montages des dossiers MDPH pour les enfants?
Ça, c'est un grand enjeu du quinquennat, c'est la simplification. C'est-à-dire faire conscience aussi à l'expertise parentale, à l'expression du projet de vie, pour s'appuyer sur l'expression de la personne sur ses besoins de compensation. Là, il y a un très très grand enjeu de simplification, de réduction des temps d'évaluation et surtout d'allongement des délais, parce que c'est quand même insupportable pour ces familles de devoir toujours faire la preuve de leurs besoins. Donc là, on a un gros chantier de simplification. Hier, j'étais à Strasbourg pour visiter la maison départementale des personnes handicapées à Strasbourg, où il y a eu une co-construction avec les associations remarquables sur la simplification, sur l'élaboration des notifications qui soient enfin compréhensibles par des parents, parce que c'était un grand sujet de recours, et ils se sont aperçus que parfois c'était totalement incompréhensible. Donc là, c'est un vrai chantier que l'on est en train de mettre en place avec les différentes MDPH là-dessus.
Alors, il y a un sujet qui concerne les personnes handicapées de multiples façons et qui est vraiment l'actualité de cette rentrée, c'est la question des contrats aidés. On a une question pour vous, Madame Cluzel, de Emmanuel Dalseco du site handicap.fr qui est au téléphone avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, la question des contrats aidés, on a dit l'éducation nationale maintient ses contrats aidés. Ça, Sophie Cluzel, vous nous le confirmez aujourd'hui.
Oui, oui, tout à fait.
Par contre, il n'y a pas que l'éducation nationale. Emmanuel Dalseco.
Oui, donc vous avez assuré que les contrats aidés au sein de l'éducation nationale seraient sanctuarisés, mais qu'en est-il de des personnes qui accompagnent les élèves handicapés dans le cadre des activités périscolaires?
Alors, heureusement, tous les élèves qui accompagnent en périscolaire ne sont pas en contrat aidé. Vous avez des animateurs qui sont en contrat avec les collectivités locales pour les cantines, pour les temps périscolaires. Heureusement que tous ces animateurs sont présents et de toute façon, il n'y a pas une fermeture complète des contrats aidés. Il y a vraiment, on essaye de flécher les contrats aidés pour les sujets qui sont les plus importants, et notamment l'accueil, l'accompagnement des élèves handicapés, comme je l'ai dit, mais pas que. Aussi, sur le social, le médico-social, le sanitaire, il y a des fléchages, et nos amis de l'outre-mer aussi, il y a des fléchages de contrats aidés sur les missions qui sont les plus importantes pour justement faire de cette société inclusive et fraternelle, solidaire, comme on l'appelle de nos voeux.
On a récemment interrogé la Fédération des PEP sur ce sujet et eux sont très inquiets sur l'accompagnement des élèves en dehors des temps scolaires, malgré tout.
Oui, mais encore une fois, heureusement, les collectivités locales ne fonctionnent pas que sur des contrats aidés pour faire de l'animation. Hein, donc il y a vraiment tout un volant d'accompagnants qui sont de toute façon des animateurs de collectivités locales. Et d'autre part, quand les MDPH notifient un besoin d'accompagnement sur les temps périscolaires, il est fait de toute façon par le personnel éducation nationale. Donc cette continuité d'accompagnement, elle existe déjà pour pas mal d'enfants.
Donc il n'y aura pas de souci majeur à ce niveau-là?
Il peut y en avoir. Je ne vais pas vous dire que tout est rose et qu'il ne va pas y avoir des territoires qui seront en difficulté. Mais de toute façon, c'est là où il faut qu'on travaille dans la dentelle. Il faut que les familles alertent. Alors je voudrais quand même en profiter pour redonner le numéro d'aide handicap école, hein, le 0810 55 55 00. hein, ou aidehandicapecole@education.gouv.fr, parce que c'est vraiment ce numéro-là qui va nous servir à faire remonter justement les dysfonctionnements pour être le plus réactif possible au sein du ministère de l'Éducation nationale.
Alors, sur cette question des emplois aidés, on voit bien qu'il y a quand même des inquiétudes autour de la rentrée scolaire, en particulier du périscolaire, mais pas seulement. Hier, communiqué de la Croix-Rouge française, la FEAP, Nexem, qui sont des grandes associations gestionnaires, qui ne sont pas connues pour être des extrémistes, qui alertent le gouvernement et qui disent l'importance de ces contrats pour l'accompagnement des personnes en situation de fragilité, je lis leur communiqué, ou de perte d'autonomie. Qu'est-ce que vous dites à la Croix-Rouge, la FEAP, Nexem, là, qui vous interpelle?
Ce sont justement ces champs-là qui sont quand même prioritaires, hein, sur le maintien des contrats aidés. Donc ça ne va pas être un arrêt brutal sur ces champs-là. C'est sur le secteur marchand qui sont vraiment fermés. Ils sont réfléchis sur 2017 sur ces missions dont vous parlez, qui sont prioritaires pour cette cohésion sociale. Je dis aussi qu'on a fait la preuve que ces contrats aidés ne débouchaient pas sur du contrat pérenne. 25% seulement sont transformés en CDI. Donc il faut qu'on repense peut-être l'accompagnement de toutes ces associations, voir un peu quelles sont leurs missions, voir comment on peut les aider à trouver des financements. Mais je rappelle quand même que le contrat aidé est fait pour la personne, pour l'emploi, pour amener la personne à l'emploi durable. Donc si ce n'est pas le cas, et si c'est un turnover sans arrêt et un retour à la case Pôle emploi, c'est bien que ça ne marche pas.
Mais ça a marché en particulier dans les associations, peut-être davantage que dans les fonctions publiques. Quand ce sont les associations qui ont recours au contrat aidé, du coup, le travers qui avait été identifié par la Cour des comptes, de dire que eh bien, ça ne débouche pas sur l'emploi, dans les associations, ça marche mieux.
Ben, si ça marche mieux, passons directement à l'emploi durable et ne passons pas par le contrat aidé. Si elles ont les financements pour pouvoir embaucher, qu'elles embauchent donc les personnes, si vous voulez, directement en contrat durable. Je pense que quand même, les contrats aidés n'ont pas fait la preuve que ça amenait à un emploi durable. Donc c'est un peu ça qui est remis en cause sur ce levier. En revanche, qu'est-ce qu'il nous faut faire ? Travailler sur la formation professionnelle. L'apprentissage, c'est aider ces associations à développer aussi la notion d'apprentissage, de formation professionnelle pour faire monter en qualification et permettre cet emploi durable qu'on appelle de nos voeux.
Il y a une petite question de méthode sur laquelle vous avez été interpellé. On a une association qu'on connaît bien. Ils ont reçu hier, 31 août, un coup de fil de Pôle emploi qui leur dit « Le dossier que vous avez déposé de renouvellement en juillet, finalement, il n'est pas financé. » Et cette histoire des contrats aidés, c'est beaucoup venu de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup des petites mairies, des collectivités locales, mais des associations qui ont eu un petit coup de fil de Pôle emploi pour leur dire « ça ne sera pas renouvelé. » Et du coup, ça met les personnes en grande difficulté.
C'est sûr que la méthode est un peu brutale, c'est certain. Mais quand on a pris une décision, on ne peut pas faire de la dentelle pour dire « oui, vous pourrez, vous ne pourrez pas », puisque ce sont des contrats qui sont subventionnés par l'État. Donc forcément, il y a une méthodologie qu'il faut appliquer à tous. Donc c'est certain. En revanche, que ces associations, on arrive à ouvrir les dialogues, travailler avec eux, voir comment on peut les aider, voir comment on peut les accompagner pour cette transition qui est un peu difficile, c'est certain.
Les associations donc, que je mentionnais tout à l'heure, Croix-Rouge, FEAP, Nexem, là, ils disent qu'il faudrait que le secteur social, médico-social, sanitaire soit épargné par ces contrats aidés, parce qu'on en a besoin. Dans les maisons de retraite, il y a des contrats aidés. Dans les établissements pour les enfants handicapés, il y a des contrats aidés. Par exemple, pour aller ramasser les enfants, faire le ramassage scolaire le matin.
Je ne pense pas que toutes ces associations ne fonctionnent qu'avec les contrats aidés. Donc ce qu'il faut, c'est repenser, voir avec eux, remettre à plat leur modèle économique, si vraiment il y a des difficultés et qu'ils ne peuvent pas embaucher des personnels fixes. Ces contrats aidés, c'est quand même fait pour la personne, pour le salarié. C'est pas fait pour la structure, c'est de la subvention, si vous voulez, qui a été mise en place. Donc il faut quand même voir aussi que, est-ce que vraiment c'était la forme contrat aidé qu'il fallait faire pour ce genre de missions qui sont pérennes. Ces missions sont pérennes. Or, les salariés ne le sont pas, puisque ça ne débouche pas sur un emploi. Donc, il faut peut-être se repencher. Je reçois les associations régulièrement, notamment les grandes associations, justement, dans le social médico-social dont vous parlez. Donc, on va se remettre autour de la table, voir un peu comment pouvoir affirmer que leur mission doit être vraiment maintenue. Mais encore une fois, travaillons sur la pérennisation des emplois. C'est ça qui est important, parce que l'emploi aidé était fait vraiment pour un salarié, non pas pour une, si vous voulez, pour une structure, pour aider une structure sur des missions.
Alors, on a les derniers chiffres de l'AGFIP là. 10 000 personnes handicapées ont signé des contrats aidés sur le premier trimestre 2017, là, janvier, février, mars. 10 000 personnes handicapées, une grande majorité dans ce qu'on appelle le secteur non marchand, hein, c'est-à-dire du secteur public ou bien associatif. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces 10 000 personnes, elles soient demain au chômage ?
Mais ils ne sont pas supprimés, les contrats aidés. Ils sont réduits. Attention, donc ils vont aller en biso sur 2017. Ils sont quand même, il y en a une grande majorité qui sont maintenus. Ils ont été fléchés sur les publics prioritaires, dont aussi les personnes handicapées, dont les enfants handicapés à l'école. Donc rassurez-vous, ils ne sont pas supprimés du jour au lendemain. Donc,
alors,
ce public-là.
Dernière question sur la rentrée scolaire, et puis on dira un petit mot de l'allocation adulte handicapé dans un instant. Quid de la désinstitutionnalisation ? Le mot est un peu compliqué, mais il y a eu un message du Conseil de l'Europe qui rappelle encore, là, fin août, que les pays européens vont pas assez loin dans la désinstitutionnalisation. Ça veut dire que les enfants handicapés, ils doivent être à l'école ordinaire et pas dans les établissements. Où est-ce que vous en êtes là-dessus ? On sait votre volonté d'agir en matière d'inclusion. Comment est-ce que vous voyez les choses ?
Bien, je vois les choses aider cette désinstitutionnalisation, transformer des murs en services. Je pense qu'il faut faire les choses en douceur, profondément, avec les associations qui portent aujourd'hui ces établissements médico-sociaux. Beaucoup se font cette réflexion. Je tiens à rappeler à nos auditeurs que, par exemple, l'emploi accompagné, c'est une initiative des associations gestionnaires d'ESAT qui se sont posé la question de savoir comment accompagner nos adultes handicapés vers le milieu ordinaire, transformer ces murs en services d'accompagnement. Donc c'est bien ça l'objectif, et ce sera celle de ma feuille de route, c'est travailler à cette désinstitutionnalisation. Comme le disait Christelle Prado, la présidente de l'UNAPI, ce ne sont pas les murs qui protègent, mais c'est la qualité des professionnels. Donc amener les professionnels à un changement de posture, savoir sortir des murs, accompagner la personne. Voilà, ça sera la vraie désinstitutionnalisation. Ça ne veut pas dire fermer les établissements médico-sociaux, mais les aider à se transformer, à déplacer le centre de gravité du médico-social hors leur mur médico-social au service du parcours en milieu ordinaire.
Sophie Cluzel, il y a une question qui préoccupe tous nos auditeurs. On a régulièrement des appels sur ce sujet, c'est la question des ressources. Alors, un tout petit mot sur l'allocation adulte handicapé. C'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron, un engagement fort sur cette question-là. Vous avez dit le 19 juin, l'allocation adulte handicapé va croître de manière concrète et massive en 2018. Est-ce qu'on en sait plus ? Sur le calendrier, c'est quand et c'est combien ?
Alors, on en saura plus définitivement sur le calendrier lors du budget 2018. Et surtout, je ferai une communication lors du comité interministériel du handicap qui aura lieu dans la semaine du 18 septembre. Donc, très bientôt, ça je vous le confirme. On maintiendra, et le président de la République s'est engagé, le gouvernement s'est engagé. La promesse du président de la République sera tenue. Elle sera massive dès 2018 pour atteindre les 900 euros.
On voit bien dans l'ensemble des sujets qu'on a abordés ce matin, la question financière, elle est très importante en dessous, sous-jacente sur la question de l'AAH, mais aussi sur la question de la rémunération des accompagnants à l'école, et on pourrait en citer comme ça beaucoup. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on fait quand on arrive de la société civile dans un gouvernement où il y a des poids lourds politiques pour se faire entendre ? Est-ce que ça n'est pas finalement le défi pour Sophie Cluzel en cette rentrée, pour vous la ministre issue de la société civile, de peser politiquement de manière à ce que, à Bercy, les arbitrages, ils aillent dans votre sens ?
Je pense que tout simplement, le président de la République a affirmé que le handicap était une priorité du quinquennat. Et donc, je déroule ma feuille de route qui est justement totalement croisée avec les ministres qui sont de façon paritaire au sein du gouvernement. À parité femmes-hommes, à parité société civile, société publique, c'est ça qui fait la richesse de ce gouvernement. C'est que justement, les expertises des personnes de la société civile dans un domaine sont totalement au service de l'ensemble du gouvernement. Et justement, lors du comité interministériel du handicap, vous verrez bien que tous les ministres se sont emparés de cette priorité. Le fait d'être attaché au Premier ministre, vous l'avez dit au début, est très important parce qu'on a une vraie écoute des différents domaines, thématiques, emploi, éducation, santé, culture, vraiment sport. Donc, aucun problème là-dessus. Toute ma mission d'irriguer les différentes politiques publiques, et je vais même vous lancer un défi, c'est que je pense qu'au bout de 5 ans, peut-être que le président Macron, pour son deuxième quinquennat, pourra se passer d'un ministre du handicap, parce que justement, nous serons arrivés à irriguer toutes ces politiques publiques dans les différents domaines.
Vous l'appelez quand ça coince, du côté de Bercy ou du côté des administrations, vous appelez le président de la République ?
Je travaille avec le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, pour pouvoir justement travailler complètement en transversalité sur tous les domaines.
Il vous écoute ?
Bien sûr qu'ils m'écoutent, puisque justement le comité interministériel sera à Matignon dans un format conseil des ministres, donc vous voyez que nous sommes écoutés.
18 septembre prochain, on a bien noté la date.
Non, la semaine du 18.
La semaine du 18,
voilà.
On a bien noté.
Je vous confirmerai la date très vite.
Ça marche, merci beaucoup Sophie Cluzel d'être venue ce matin sur l'antenne de Vivre FM en cette rentrée scolaire. On fera un point régulièrement, si vous le voulez bien, si vous en êtes d'accord sur un certain nombre de thématiques. Je crois que la question
très
de l'emploi,
volontiers.
Question du logement, des transports. Enfin, il y en a beaucoup des questions
qui
préoccupent nos concitoyens en situation de handicap. Merci d'avoir été ce matin sur l'antenne de Vivre FM.